N'êtes-vous pas en effet vous aussi notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue ? Oui, merci. Ce que dit Paul, là, c'est que les Thessaloniciens seront l'objet de sa fierté, en quelque sorte, comme d'autres, hein, comme tous ceux qu'il a évangélisés et qui se sont tournés vers le Seigneur. Quelque part, dans une autre épître, il dit qu'ils sont sa couronne, hein, sa gloire. Tous ces hommes sortis du paganisme et qui se sont convertis. Donc, pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Au verset 11, chapitre 3, verset 11, « Que Dieu notre Père affermisse ainsi vos cœurs pour que vous ne soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. » Vous voyez, toutes ces paroles sont tournées vers le retour de Jésus. Et vient ensuite le passage que nous venons de lire, qui est un de ceux qui donne le plus d'informations sur le retour du Seigneur Jésus pour prendre les siens avec lui. Alors il semble qu'il les avait enseignés de vive voix à ce sujet, mais que les persécutions qu'ils ont subies de la part de leurs concitoyens, tant païens que juifs, les aient amenés à penser qu'ils vivaient déjà l'époque dite de la grande tribulation ou la grande détresse, voire même ce que la Bible appelle le jour du Seigneur, expression qui parle essentiellement de la colère de Dieu déversée sur une humanité rebelle. Et ils voyaient certains de leurs frères et sœurs mourir, quelle qu'en soit la cause, alors que le Seigneur Jésus n'était pas encore revenu. Et ils pensaient de ce fait qu'ils avaient raté l'enlèvement des croyants de ce monde. Jésus lui-même avait donné un enseignement à ce sujet, à ses disciples, et l'apôtre Paul leur avait certainement fait part de cet enseignement. En Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, il s'agit de ce grand moment que Jésus a passé avec ses disciples, au moment où il a institué la Sainte-Cène d'ailleurs, et il leur a appris, les a instruits de bien des choses avant d'être arrêté. Et il leur dit, « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » C'est drôle là parce qu'il y a deux mots différents. La maison, c'est vraiment la propriété, l'immense propriété du Père. Mais des demeures, c'est des appartements. Hein, ce n'est pas le même mot dans le grec. Donc dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Paul aborde le même sujet dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, qui est le plus grand passage qui nous parle de la résurrection. On va lire quelques versets seulement. Dans 1 Corinthiens 15, on va lire les versets 51 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, il écrit donc à d'autres chrétiens, hein, ceux de Corinthe, « Je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réaliser cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. » Jusque-là. Alors revenons à notre texte de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4. Paul rappelle donc ces vérités aux Thessaloniciens afin qu'ils ne soient pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous avons là le but de ce paragraphe de sa lettre, encourager et consoler. Paul ne veut bien sûr pas dire que les chrétiens n'éprouvent pas de chagrin lors de la perte d'un être cher. Mais leur tristesse est très différente de celle de ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a bien sûr la douleur de la séparation, souvent d'ailleurs précédée des souffrances de la maladie. Mais il y a une espérance ferme que cette séparation n'est que temporaire. Alors que pour Paul, ce qu'il appelle le reste des hommes, c'est-à-dire les non-chrétiens, n'ont pas cette espérance. Le diable a bien essayé de proposer des succès d'années d'espérance dans d'autres religions, comme par exemple l'espérance dans un cycle de réincarnation jusqu'à atteindre l'anesthésie finale envers toute souffrance, comme on le voit dans le bouddhisme par exemple. Ou d'autres formes de paradis, tout à fait mensongères et plutôt folkloriques même, comme celui promis aux musulmans, particulièrement s'ils se sont couverts de gloire lors de leurs exploits au djihad. L'espérance des chrétiens est incomparable. Celle de vivre une éternité passionnante et bienheureuse dans la compagnie de leur Seigneur et Sauveur. J'ai écrit passionnante à la suite d'un livre que j'ai lu d'un Américain, Randy Alcorn, Les pieds sur la terre, les yeux vers le ciel. Et il a écrit ce livre parce que beaucoup de chrétiens disent, enfin s'imaginent que l'éternité ça va être barbant, ennuyeux, toujours la même chose. Alors qu'en fait, ce Randy Alcorn démontre par l'écriture, et c'est tout à fait pertinent ce qu'il écrit, que l'éternité sera passionnante, non seulement heureuse, mais passionnante. Au verset 14, il écrit, Paul, « En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Alors, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, il ne s'agit pas d'une condition, mais d'une suite logique. Notre vie est complètement liée à celle de notre Sauveur, et donc sa résurrection implique la nôtre. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Dieu ramènera les croyants morts par Jésus et avec lui. Alors, question légitime, d'où Dieu ramène-t-il les morts par l'action de son Saint-Fils? Ces morts, dès qu'ils ont rendu leur dernier soupir, ont été transportés immédiatement dans la présence du Seigneur au ciel. C'est ce qu'a affirmé Jésus lui-même au brigand qui partageait avec lui le supplice de la croix, mais qui avait reconnu que son châtiment était juste et avait demandé au Seigneur de se souvenir de lui quand il viendrait dans son règne. On trouve ça dans Luc 23, verset 41. Et Jésus lui a répondu, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » On revient à notre épître aux Thessaloniciens, verset 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Alors, à quelle parole du Seigneur Paul fait-il allusion? Il peut s'agir soit d'un enseignement que Jésus a donné à ses disciples, mais non rapporté dans les évangiles, c'est possible, soit d'une révélation que Paul a reçue directement du Seigneur. En Jean 14, Jésus a affirmé à ses disciples que s'il partait, il reviendrait aussi pour les prendre avec lui dans la maison du Père. Mais il n'a pas précisé les détails de cet enlèvement vers la maison du Père. Et ces détails, c'est Paul qui nous les donne. Il dit, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra. Bon, Paul il est mort, Et bien des chrétiens sont morts ensuite. Mais à l'époque, probablement pensait-il que le retour du Seigneur était imminent, allait être très rapide. C'est pour ça qu'il écrit ça. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Alors, ceux qui sont morts, le mot grec peut être traduit par ceux qui dorment. C'est pas le mot mort qui est employé, mais le mot utilisé pour le sommeil. Le Nouveau Testament utilise fréquemment cette métaphore du sommeil pour parler de la mort des chrétiens. Les vivants, lors du retour du Seigneur, n'auront donc pas de préséance particulière sur ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Et le verset suivant, verset 17, « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » On a lu en 1 Corinthiens que si on sera emmené, c'est pas avec nos corps mortels tels que nous les avons, hein, mais des corps transformés qui revêtiront l'immortalité pour pouvoir monter dans la présence du Seigneur. On voit donc que les morts en Christ nous précéderont, de peu semble-t-il, dans la résurrection. Ils recevront aussitôt leur corps glorieux, semblable à celui du Seigneur. En 1 Jean 3, verset 2, Jean écrit, « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Au verset 17, « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux. Mais bien sûr, non sans avoir revêtu un corps incorruptible, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, 51. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Le mot grec que Paul emploie signifie « changer, modifier, même troquer ». En quelque sorte, nous troquerons notre corps avec ses imperfections et surtout sa nature corruptible pour un corps parfait, comme celui du Seigneur, incorruptible. Il a été mentionné la trompette de Dieu hein, dans les deux passages, aussi bien dans l'épître aux Thessaloniciens que dans l'épître aux Corinthiens. Cette image est tirée de l'usage militaire des sonneries de trompette utilisées dans l'armée romaine pour lever le camp. Les premières sonneries donnaient l'ordre de se préparer, la dernière donnait l'ordre de se mettre en marche. Alors nous, ce ne sera apparemment pas une marche, d'après ce qu'on a lu, hein, mais un vol à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il est remarquable que pour cette mise en marche, ou ce décollage, Paul utilise le verbe arpazomai qui signifie prendre, ravir, mais au passif. Nous serons élevés ensemble, c'est une action qui relève de la seule puissance de Dieu qui nous ravira. Et à partir de là, Paul dit, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus jamais de rupture de communion, comme nos péchés en provoquent parfois. Pouvons-nous imaginer un bonheur plus parfait? Et il termine ce paragraphe par le verset 18. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Mutuellement parce que durant notre pèlerinage sur cette terre, nous connaîtrons inévitablement des deuils. Et nous sommes donc exhortés par l'apôtre à nous encourager les uns les autres lorsqu'un deuil survient. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, mais aussi nous nous rappelons l'un à l'autre notre espérance. C'est aussi pour cela que le Seigneur nous a donné des frères et sœurs en Christ. C'est une preuve supplémentaire qu'on ne peut pas vivre sa foi isolément. Ainsi se termine ce chapitre 4 de cette lettre dans laquelle Paul tient à encourager ses chers Thessaloniciens, même s'il a dû aussi les reprendre sur le comportement de quelques-uns. Dans le chapitre suivant, que nous verrons une prochaine fois, mais j'en dis juste quelques mots, Paul va aborder le sujet effrayant du jour du Seigneur, ça c'est autre chose, qui est celui de la colère de Dieu envers une humanité pécheresse et surtout rebelle. C'est un aspect très différent du retour du Seigneur pour prendre les siens, qui seront gardés car ravis auprès de lui avant le jugement de toute la terre. Alors que ces paroles encouragent aussi ceux d'entre nous qui voient partir leurs bien-aimés. Leur corps dorme dans la poussière de la terre, sort commun à tous les hommes. Mais le réveil de leur corps sera bien différent. Le prophète Daniel avait écrit il y a bien longtemps, bien avant l'apôtre Paul, hein, 7 siècles avant je crois, en Daniel 11 verset 2, « Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Parole bien solennelle, n'est-ce pas? Quand on pense à tous ceux qui méprisent le salut gratuitement offert.